session théologique par le père Martin et le père Marie-Dominique Philippe de novembre 1994. Premier cours par le père Martin, le Christ rédempteur.
Merci. Alors, on va vous distribuer comme photocopie un petit passage de l'encyclique du Saint-Père, Redemptor Hominis. Qui a l'avantage d'avoir comme titre le titre même de cette session. Et puis, on va commencer à la regarder pour donc démarrer ce regard théologique sur le Christ rédempteur. Comme on revient de Rome, c'est peut-être normal qu'on commence à regarder une encyclique du Saint-Père, comme c'est sa fête aujourd'hui. Ça, c'est la première encyclique du Saint-Père de 1979. Vous savez que les premières encycliques sont toujours attendues et regardées, et celle-là a été rédigée, et le Saint-Père le dit explicitement, comme une espèce de lumière qui donnait surtout ce que sera le pontificat. Alors je vous invite à relire, si vous l'avez déjà fait, ou à lire cette encyclique. C'est particulièrement intéressant de la lire maintenant, donc 79, 15 ans se sont passés. Et c'est merveilleux parce que tous les thèmes, tout ce qu'on a vu faire par Jean-Paul II est déjà présent. Il y a une espèce de, vous voyez, c'est très frappant de cohérence dans l'action de Jean-Paul II. Tout est là en germe, tout est dit. Alors maintenant, évidemment, on le comprend a posteriori. Vous voyez, c'est un peu comme ce qui s'est passé pour les apôtres. Ils ont vu le Christ agir, ils ont entendu le Christ, et c'est à la lumière de ce qui s'est passé à la croix qu'ils sont pénétrés dans ce que le Christ avait pourtant dit bien avant. Ben, il y a quelque chose d'un peu analogue avec là ce que nous a donné Jean-Paul II il y a 15 ans. Ça m'a beaucoup frappé en relisant l'encyclique. J'ai envie de dire, tout ce qui a pu surprendre était là. Bon, enfin, on ne fait pas une session sur Saint Jean-Paul II. Alors, ce qui est très intéressant, c'est, et les frères le savent bien, c'est que le Saint-Père est tout à fait lucide sur la difficulté pour l'homme moderne de saisir, d'entrer, d'accepter, disons plutôt, la rédemption. Le Père Philippe rappelle souvent cette parole du Saint-Père aux évêques de France lors de son premier voyage en France, en 1980, je crois, où le Saint-Père a parlé que la tentation aujourd'hui que connaissait l'Église était peut-être la plus forte. Et il a parlé donc d'une méta-tentation qui consiste, c'est quelque chose de très simple, c'est étant donné tout ce que l'homme moderne peut faire, tout le spectacle du progrès technique, de sa domination sur le monde, quelle place y a-t-il pour un sauveur ? Donc vous voyez, c'est une espèce d'oubli d'une nécessité de la rédemption. Pourquoi ? À cause du progrès. Le progrès technique. Et le Saint-Père en parle dans l'encyclique. Un moment. Numéro 8 de l'encyclique. Quand il reprend la parole de Saint-Paul sur le fait que la création gémit dans les douleurs de l'enfantement. Vous vous souvenez de cette parole de saint Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Et le Saint-Père dit, eh bien, peut-être ne sommes-nous pas convaincus, nous, hommes du XXe siècle, par ces paroles de saint Paul. Pourquoi nous ne sommes pas convaincus? Ben parce qu'au lieu de voir une création qui gémit, on voit des autoroutes, des centrales nucléaires, et des voitures qui sont sur ces autoroutes, et des gens qui se chauffent grâce à ces centrales nucléaires. Donc ça marche bien. Et ça, apparemment, ça ne gémit pas beaucoup. Alors le Saint-Père est très astucieux parce qu'il dit... Ben, quand même si on regarde ça, il y a quand même quelques signes que cette création est soumise à la caducité, comme dit saint Paul. Alors, il embraye sur les thèmes comme la pollution, les armes atomiques. Et donc, vous voyez, il introduit le soupçon quant au bien fondé de la création en s'appuyant sur des thèmes courants, la pollution, les dégradations de l'environnement et les menaces nucléaires. Faut pas oublier qu'il écrit ça en 79, hein. Donc on est en pleines histoires en Europe, des missiles, je ne sais plus comment ils s'appelaient là. Donc. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que quelle est la manière dont le Saint-Père va rappeler, va redonner à l'humanité la possibilité d'entrer dans le mystère de la rédemption. Une humanité qui, a priori, risque d'être hermétique à cause de l'avancée de la civilisation du point de vue technique. Et vous voyez, cette manière d'agir, d'utiliser les choses qui sont liées à cette civilisation technique et qui en prouvent les limites, est très intéressante, parce que là, vous voyez l'adaptation du pasteur par rapport à une humanité qui est très conditionnée par le point de vue technique et qui essaye de lui montrer que, même du point de vue technique, il y a des limites terribles. Alors, évidemment, le Christ n'est pas là d'abord pour dépolluer l'atmosphère, mais vous voyez la manière dont il s'y prend. Et ça, je trouve ça très fin. Et j'aimerais qu'on essaye de regarder cette encyclique en se demandant quelle est la manière dont le Saint-Père, en 1979, il y a 15 ans, essayait de présenter à l'humanité le mystère du Rédempteur. Parce que quand vous lisez la manière dont l'entête de cette lettre encyclique, elle est adressée aux évêques, aux prêtres, aux familles religieuses, aux fils et filles dans l'Église, et à tous les hommes de bonne volonté. Donc c'est une encyclique très large, hein, à la différence par exemple de la dernière encyclique, Veritatis Splendor, qui est elle destinée à l'épiscopat. Donc vous voyez, il y a une envergure dans le public auquel est destinée cette encyclique, et cela se comprend puisque justement tout le travail du Saint-Père, on va le voir, va consister à dire le Rédempteur est pour tout le monde. Alors ça se voit dès la première phrase. La première phrase de l'encyclique, c'est « Le Rédempteur de l'homme, Jésus-Christ, est le centre du cosmos et de l'histoire. » Vous voyez, mais le décalage est profond, hein, par rapport à une mentalité courante. Quel est le centre du cosmos et de l'histoire? Ce n'est pas la Voie lactée, ce n'est pas Newton, Jésus-Christ. Donc vous avez là, en fait, on voit bien la manière dont le Saint-Père s'adresse à l'humanité, il prend un regard d'économie divine. Économie divine, c'est-à-dire que j'essaye d'avoir un regard théologique sur la manière dont Dieu agit dans l'histoire, la manière dont Dieu réalise sa volonté, la manière dont Dieu réalise son dessein. Et là, je vois que celui qui est au centre de cette économie divine, de cette manière dont Dieu réalise son dessein, c'est Jésus-Christ. Donc, de ce point de vue, la théologie de l'économie divine, il a une place centrale, capitale, unique. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder en parallèle à ce que nous dit le Saint-Père, l'Apocalypse, qui est un grand livre qui éclaire, bien sûr, sur l'économie divine, et le passage au chapitre 5 de l'Apocalypse. Pour essayer de rentrer, voyez, dans l'intelligence de ce que dit Saint-Père lorsqu'il dit « Jésus-Christ est au centre de l'histoire et du cosmos ». Vous vous souvenez que l'Apocalypse au chapitre 4 nous a donné la grande vision du trône de Dieu. Il y a quelqu'un qui est assis sur un trône. Voici qu'un trône, chapitre 4, verset 2, « Voici qu'un trône était placé dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un qui était assis ». Verset 4, autour du trône, 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards. Qui sont ces vieillards assis? Est-ce que ces vieillards, vous voyez, ne symbolisent pas la manière dont l'humanité est associée au dessein de Dieu? Ces vieillards, ce sont des vieillards pourquoi? Parce que ils sont. Le vieillard, c'est celui qui, dans la mentalité antique, est le plus proche de la sagesse de Dieu. C'est le sage. Nous, on a perdu ce sens-là. Comment être sage? Dans la mesure où j'accomplis la volonté de Dieu, où je me fais l'instrument de son dessein et où je me hisse jusqu'à une saisie de sa volonté. Il y a quelque chose là, dans cette position des vieillards autour du trône, qui est peut-être très forte pour montrer comment l'humanité est associé de manière différenciée, il y en a 24, à la réalisation des desseins de Dieu. Il y a peut-être là un éclairage sur la manière dont, tout de suite, l'humanité et l'histoire de l'humanité est liée à Dieu. Hein, c'est un regard d'économie divine. Donc on va avoir un regard sur le lien entre Dieu et l'humanité. Est-ce que ce n'est pas déjà ça qui est montré par les 24 vieillards? Point d'interrogation. Ensuite, vous avez du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres, une mer vitrifiée semblable à du cristal, donc il y a beaucoup de choses, puis quatre vivants, qui sont ces quatre vivants à la fois au milieu du trône et autour du trône. Donc ces quatre vivants, vous savez bien que le père Philippe y voit un symbolisme de l'incarnation, donc de cette place unique du Christ qui est à la fois créature par son humanité et Dieu, c'est le Verbe, la deuxième personne de la Trinité. Est-ce que ces quatre vivants ne symbolisent pas ce qui, en tant qu'ils sont au milieu du trône, donc ils ont cette place divine, et autour du trône, comme les vieillards? Ça, c'est la vision du chapitre 4. Au chapitre 5, on va avoir une autre vision. Je prends tout de suite le verset 6. « Je vis au milieu du trône et des quatre vivants, et au milieu des vieillards, un agneau debout comme égorgé. » Au milieu du trône et des quatre vivants, et au milieu des vieillards. Donc, vous voyez, il touche le mystère divin, il touche la manière dont l'humanité est associée au dessein de Dieu. Il est au milieu du trône des quatre vivants, au milieu des vieillards. Un agneau debout comme égorgé. Donc là, vous avez un autre symbolisme, comme le montre également le père Philippe, qui correspond à un autre aspect du mystère du Christ, le mystère de la rédemption. Donc vous avez, dès ces deux chapitres de l'Apocalypse 4 et 5, un regard sur le Christ dans son mystère d'incarnation. Il est Dieu et il est homme. Comme le dit saint Jean, c'est le Verbe incarné. Donc, les quatre vivants. Pourquoi ils sont quatre? Parce que cet aspect, ce chiffre 4, cette pluralité, correspond à quatre dimensions dans le mystère de l'incarnation. Et au niveau du chapitre 5, donc vous avez le Christ comme rédempteur. Donc, le mystère de la rédemption, l'agneau debout, c'est-à-dire qu'il est victorieux, hein, comme le dit le texte, il est victorieux, il est vainqueur, le lion de la tribu de Juda, et égorgé, donc c'est une allusion évidente au mystère de la croix, de la souffrance du Christ. Alors, vous l'avez au verset 9 de manière plus claire, quand tout le monde chante un cantique nouveau, disant, ce qu'on chante aux vêpres de temps en temps, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux parce que tu as été égorgé et tu as acheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu et langue et peuple et nation. » Donc vous voyez, c'est bien la rédemption. Cet agneau a acheté. Hein. Rédemption, redimo, c'est racheter. Et là, vous avez le terme grec qui, à l'origine, signifie quelqu'un qui va faire ses emplettes au marché. Eh bien, le Christ est décrit par l'Apocalypse comme quelqu'un qui a fait cet achat des hommes. Et il est décrit comme l'agneau égorgé. C'est en tant qu'agneau, en tant qu'égorgé, qu'il a fait ce rachat. Donc c'est bien le mystère de la rédemption. Alors, petite chose que je vais éclairer du point de vue théologique. Cet agneau, il est au milieu des quatre vivants, au verset 6. Donc là, vous avez une discussion théologique qui est sous-jacente. Et l'image de l'Apocalypse est peut-être quelque chose qui permet de l'éclairer. C'est quelque chose que ceux qui commandent saint Thomas, ou qui lisent saint Thomas, connaissent bien comme problème. C'est le problème de la finalité de l'incarnation. Les fins de l'incarnation. L'incarnation... Le Verbe qui s'incarne, à quoi est-elle ordonnée? Saint Thomas, au début de la troisième partie de la Somme, troisième partie de la Somme qui est consacrée au Christ, au mystère du Christ, montre, ça c'est pour ceux qui veulent le regarder, qui l'ont déjà lu, vous souvenez, c'est la question article 3. Saint Thomas reprend une question théologique en se disant, si l'homme n'avait pas péché, est-ce que Dieu se serait incarné? Voyez, la rédemption, elle est liée au péché. Il faut racheter des gens qui sont marqués par le péché. est-ce que s'il n'y avait pas ce péché, donc s'il n'y avait pas eu la rédemption, il n'y aurait pas eu l'incarnation? Or là, le texte de l'Apocalypse montre que l'agneau égorgé est au milieu des quatre vivants. Les quatre vivants entourent l'agneau égorgé. Alors saint Thomas, posant la question, comment il y répond? Vous voyez le regard là du théologien qui essaye de, au début du mystère, au début de son regard sur le mystère du Christ, de réfléchir sur les convenances de l'incarnation. Le Christ est incarné, mais pourquoi? Saint Thomas dit, tout le mystère de l'incarnation et de la rédemption relève d'une volonté gratuite de Dieu, d'une volonté de Dieu de surabondance. Il y a dans ce mystère de l'incarnation et de la rédemption quelque chose qui dépasse ce qui est dû à la créature. Ce qui est dû à la créature, une fois qu'elle a péché, c'est la damnation, c'est d'être coupée de Dieu, sort qu'elle a choisi en Adam. Dieu se donne à nouveau. Cela relève de sa pure volonté d'amour, de surabondance, de gratuité. Et cela, saint Thomas dit, nous ne sommes renseignés sur cette volonté que par ce que nous dit la révélation. Seule l'Écriture nous renseigne sur ce qui est de l'ordre d'une surabondance dans le don de Dieu à l'humanité par rapport au niveau de la création. Donc vous avez déjà quelque chose qu'on va voir tout le temps, un parallèle entre ce qui relève du niveau de la création. Dieu crée des êtres, il leur donne les moyens de subsister dans cette création. Mais vous avez par-delà cette première initiative, qui est déjà une miséricorde, puisqu'il fait passer des êtres qui n'existaient pas à l'existence. Il y a déjà, par rapport à ce niveau premier du don de Dieu, une surabondance. Et ça, c'est au-delà de tout dû. Ce n'est pas dû en justice. Et cette surabondance, c'est le niveau de l'incarnation et de la rédemption. Sur ce niveau, seule la révélation nous renseigne. Alors qu'à ce niveau de la création, vous avez un regard scientifique, philosophique. Vous pouvez comprendre que pour survivre, il vaut mieux avoir de l'air à respirer. Ça vous est dû en justice dès que vous êtes créé. Donc c'est l'Écriture qui va me renseigner là, qui va m'éclairer. Or, saint Thomas dit, à chaque fois que l'Écriture parle du mystère de l'incarnation, c'est pour la relier au péché et au rachat. Systématiquement, si vous voulez. On voit que saint Thomas, il ne laisse aucune hésitation dans la révélation telle qu'il la voit. Pensez aux paroles, par exemple, de Jésus, dans saint Luc, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Donc je suis venu pourquoi? Pour des pécheurs. Le Verbe s'est incarné pour racheter ces pécheurs. Autre parole, et on pourrait en citer beaucoup d'autres évidemment, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Vous voyez l'Écriture systématiquement, elle vous dit, s'il y a incarnation, c'est pour la rédemption. Donc saint Thomas, de manière très nuancée, dit, l'incarnation paraît ordonnée à la rédemption, de telle manière que s'il n'y avait pas eu le péché, si l'homme n'avait pas péché, il paraît plus vrai de dire que Dieu ne se serait pas incarné. Vous voyez, petite spéculation du théologien. On est tellement orienté par l'Écriture, qui est notre seule source d'information en la matière, sur le lien incarnation-rédemption, que raisonnement inverse, contraposé, comme on dirait, s'il n'y a pas eu de rédemption, s'il n'y avait pas eu de péché, il n'y aurait pas eu d'incarnation. Quoique, saint Thomas ajoute, Dieu est tout-puissant, il peut tout faire. Donc on ne peut pas l'empêcher de s'incarner s'il le désire. Alors ça, ce n'est pas du tout la vision de quelqu'un d'autre. Notre cher Don Scott. Don Scott, qui sera repris par Suarez. Don Scott, donc un théologien franciscain du début du XIIIe, fin XIIe, début XIIIe, qui intervient donc une génération après saint Thomas. Mais saint Thomas a été condamné. Donc, très vite, les théologiens ont cherché à faire autre chose que saint Thomas. Et donc Scott va prendre une vision tout à fait différente et dira « L'incarnation est voulue par Dieu indépendamment de la rédemption. » C'est-à-dire que éternellement, Dieu veut avoir une espèce de correspondant qu'il aime, avec lequel il puisse avoir un rapport d'amour infini. Et c'est pour ça que toujours, Dieu a voulu que le Verbe s'incarne. Alors de fait, ça lui sert parce que l'homme, entre-temps, a péché et que ça lui permettra d'avoir cet instrument qu'est le Verbe incarné qui fera la rédemption. Mais ça, c'est, vous voyez, c'est comme une espèce d'accident de parcours qui rajoute quelque chose à la fonction du Verbe incarné. Alors vous voyez, l'équivoque terrible, c'est que Don Scott part de là, s'appuie pour dire ça sur le fait que Dieu aurait comme besoin d'avoir un échange d'amour avec une créature qui l'aimerait infiniment. Et c'est un peu curieux, vous voyez, vous avez une espèce de vision où au fond Dieu a besoin de quelque chose d'autre que lui. Parce que ça ne colle pas très très bien avec ce que l'on peut savoir grâce à la révélation du mystère de Dieu, où on sait que Dieu en lui-même est un tel... a une vie d'amour éternel entre le Père et le Fils. Vous voyez, comme c'est curieux de dire que Dieu éternellement pense à avoir une espèce de correspondant, de répondant à son amour, et donc c'est pour ça que éternellement que éternellement il veut la création, l'incarnation, même si l'homme n'avait pas péché. Bref, Suarez reprendra la même chose. Alors, pour finir sur cette petite discussion théologique, saint Thomas d'Aquin répond à une objection qui est de dire « C'est très bien, vous dites que l'incarnation est ordonnée à la rédemption. » Donc ça veut dire que le péché nous vaut non seulement l'incarnation, mais l'incarnation. Si Dieu s'incarne, c'est donc parce que l'homme a péché. Donc un mal est cause d'un bien, et pas n'importe quel bien, le plus grand bien imaginable dans l'ordre créé, Dieu qui prend une nature humaine. Comment est-ce que vous pouvez soutenir qu'une bêtise est source du plus grand bien? Saint Thomas répond très simplement, en s'appuyant sur la tradition et sur saint Augustin, en disant, c'est justement la marque de l'œuvre de Dieu. Dieu, c'est celui qui s'est tiré du mal, et même du plus grand mal, un plus grand bien. Et c'est la seule raison pour laquelle il permet un mal. Et saint Thomas conclut en s'appuyant sur la liturgie, sur la tradition liturgique de l'exulté de la veillée pascale, Felix culpa. Toute la tradition de l'Église a vu dans la faute de l'homme quelque chose dont Dieu a tiré quelque chose de plus grand. Donc cette faute, elle est bienheureuse. Quand vous chanterez la veillée pascale, enfin celui qui chantera en tout cas, Felix culpa, ou je ne sais plus comment c'est dans la version française, vous penserez à saint Thomas d'Aquin face à Don Scott. Ça vous réveillera. Donc vous voyez, cette vision, l'humanité est mieux lotie après le péché qu'avant. Pourquoi? Parce que en Jésus, elle est unie à Dieu personnellement. Il y a un homme qui est Dieu, et ça je peux le dire de manière absolue. Et ça, c'est la munificence, comme le dit le pape dans l'encyclique, c'est la munificence de Dieu qui, face à toutes les infidélités, etc., tout ce que fait l'homme contre lui, donne encore plus. Et ça, c'est la marque de Dieu. Comme le rappelle souvent le père Philippe, c'est tout le contraire de notre manière d'agir dans le repli psychologique dès qu'on nous tape dessus. Quand on commence à nous blesser, on dit ben, « Très bien, je ne ferai plus rien ». C'est tout à fait l'inverse dans la manière dont Dieu agit. Alors, juste pour marquer par rapport au Saint-Père, le Saint-Père reprend lui-même cette exclamation de la veillée pascale. « Heureuse faute qui nous valut un tel et si grand rédempteur. » Alors, on ne peut pas dire que le Saint-Père est thomiste ou scotiste. Il n'opte évidemment pas dans cette querelle. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la vision du Saint-Père, et ça, c'est une vision, c'est normal, c'est une vision pastorale, mais sans rentrer dans la querelle de savoir si l'incarnation aurait eu lieu, s'il y avait eu le péché ou non, ou s'il n'y avait pas eu le péché, etc. Pour lui, toujours, incarnation et rédemption sont inséparablement liées. Et pour lui, elles sont liées en tant que vérité centrale de la foi. Vous voyez comme le sujet de cette session est capital. Nous sommes là face au mystère du Christ s'incarnant et nous rachetant. Et ça, c'est la pierre angulaire de tout ce que nous croyons. Le Christ, Dieu, homme, qui nous sauve. Alors, ça, je réfléchissais par rapport au petit passage de l'Apocalypse où on voit l'agneau au milieu des quatre vivants. Il est aussi au milieu des vieillards, cet agneau égorgé. Si les vieillards symbolisent, comme je tendrais à le penser, en mettant des bémols et des nuances, l'association de l'humanité à la manière dont Dieu réalise son dessein, vous voyez que ce petit symbolisme de l'agneau au milieu des vieillards montre que l'association de l'humanité à la réalisation des desseins de Dieu culmine dans le Christ. C'est le Christ avant tout qui est, du point de vue de son humanité, en tant que créature, le meilleur instrument, c'est celui qui allait le plus loin comme instrument de la réalisation des desseins de Dieu. Vous savez qu'on parle, du point de vue théologique, on fait une distinction entre deux sortes d'instruments. L'instrument séparé. Cette craie qui me permet d'écrire. Je ne suis pas cette craie. Et l'instrument conjoint. Alors ça, c'est une sorte d'instrument dont on n'a pas beaucoup l'expérience au point de vue philosophique, et qui est le Christ. Le Christ est pour Dieu un instrument conjoint. Pourquoi ? Parce que le Christ est à la fois Dieu, Verbe, et homme, dans l'unité de la personne du Verbe. Ce qu'on appelle l'union hypostatique. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ça ? Ça fait référence à ce qu'a défini Chalcédoine, le Concile œcuménique de Chalcédoine en 451. Donc c'est assez vieux. C'est l'union dans le Christ des deux natures, nature humaine et nature divine. Ces deux natures sont unies dans le Christ, sans fusion, sans mélange. Il y a vraiment un homme, il est vraiment Dieu. Ces deux natures sont unies dans une personne, qui est une personne divine, la personne du Verbe. Donc vous voyez, ça c'est l'explicitation par le magistère, en l'occurrence le concile de Chalcédoine, du mystère de l'incarnation auquel adhère notre foi. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'instrument conjoint, parce que l'humanité sainte, comme on dit, du Christ, unie personnellement au Verbe, sert à Dieu d'instrument. Pourquoi ? Pour la rédemption. Et vous voyez, ça c'est quelque chose où là, le Christ a une place unique. Aucun instrument n'est uni à Dieu comme le Christ lui est uni. Dieu se sert tout le temps d'instruments. Nous sommes tous, plus ou moins librement et volontairement et avec joie, des instruments de Dieu. Qu'on soit bourreau pour les autres ou qu'on les aide positivement. Mais il y en a un qui aide d'une manière particulière, le Christ. Là, j'essaie de regarder, vous voyez, comment on peut dire ce que dit le Saint-Père, le Christ, centre de l'histoire. Le Christ, centre de l'histoire de l'humanité. Cette humanité qui a toujours un rôle instrumental pour Dieu, qui lui sert, qu'elle le veuille ou non, à réaliser son dessein, elle trouve là, dans ce sens-là, son sommet dans le Christ. Mais faisons attention, parce que l'histoire de l'humanité, ce n'est pas, du point de vue théologique, ce à quoi on pense, c'est-à-dire les grandes batailles, les famines et les inondations. L'histoire de l'humanité, du point de vue théologique, c'est l'histoire de la prédestination. L'histoire de l'humanité, pour le croyant, elle est gouvernée par Dieu dans sa providence. Et eu égard aux hommes qui sont appelés à la vision béatifique, qui sont appelés à la gloire, qui sont appelés à communier à la vie intime de Dieu, cette providence a un nom, elle s'appelle la prédestination. Qu'est-ce que c'est la prédestination? C'est la manière dont éternellement Dieu a ce dessein d'orienter des hommes, tous je l'espère, vers la vision béatifique. C'est ça, vous voyez, du point de vue théologique, ce que je regarde dans l'histoire. Si le Christ est centre de l'histoire, il est centre donc de ce mystère de prédestination. Il est au cœur de ce mystère de prédestination par lequel Dieu oriente, comme dit saint Thomas, les hommes vers le salut. Et alors ça, c'est la place de ce symbole si curieux qu'on voit au verset 1 du chapitre 5, le livre scellé de sept sceaux. Ce livre mystérieux, scellé, est-ce qu'il ne symbolise pas justement ces desseins de Dieu sur l'humanité? Et seul l'agneau peut l'ouvrir. Hein, ce que dit l'un des vieillards au verset 5, ne pleure pas, voici qu'il est vainqueur, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il ouvrira le livre et ses sept sceaux. Donc, ce mystère de la prédestination qui est au cœur de l'histoire de l'humanité, il n'y a que l'agneau, ce mystère de prédestination symbolisé par le livre, il n'y a que l'agneau en tant qu'égorgé qui peut l'ouvrir. Il n'y a que l'agneau en tant que vainqueur qui peut l'ouvrir. Donc ça veut dire que la seule chose qui ouvre à l'humanité la voie au salut, c'est le mystère pascal de mort et de résurrection. L'agneau, debout, ressuscité, victorieux et égorgé, celui qui est mort, qui a souffert sa passion. Donc vous voyez que là, on a un sens plus profond de la manière dont le Christ est au centre de l'histoire de l'humanité. Il permet à cette histoire de l'humanité d'atteindre sa finalité, sa fin. Ce n'est que grâce au Christ que l'humanité peut parvenir là où elle doit arriver. Souvenez-vous du paradis terrestre qui est défendu par l'ange, allez, je ne sais plus quoi, au glaive tournoyant et lumineux. Donc cet accès est interdit, il n'est rouvert que dans le Christ, celui qui est, comme il le dit lui-même, la porte. Alors c'est pour ça que, je reviens à l'encyclique, le Saint-Père dit, dans l'acte même de la rédemption, c'est la croix, l'histoire de l'homme a atteint son sommet dans le dessein d'amour de Dieu. Parce que à la croix, il y a un homme qui réalise éminemment le dessein d'amour, et parce que grâce à cette œuvre, à ce travail de la croix, l'histoire de l'humanité est à nouveau, vous voyez, elle atteint à nouveau son terme, voulu par Dieu, la gloire des enfants de Dieu. Alors, à la fin du chapitre 5 de l'Apocalypse, vous avez une espèce de très grande liturgie qui est très magnifique, qui doit nous rappeler un peu en vision glorieuse ce que devrait être notre liturgie. Donc des versets 8 à 14. Lorsque l'agneau eut pris le livre, les quatre vivants, les 24 vieillards, tombèrent devant l'agneau. Verset 11. Je vis et j'entendis la voix d'anges nombreux qui étaient autour du trône et des vivants et des vieillards. Et il disait d'une voix forte, il est digne, l'agneau qui a été égorgé, de recevoir la puissance et la richesse et la sagesse et la force et l'honneur et la gloire et la louange. Verset 13, et toutes les créatures qui sont au ciel et sur la terre et sous la terre et sur la mer, bref tout le monde, disait à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, louange, honneur, gloire, domination pour les éternités et les éternités. Donc vous voyez une espèce de dommage cosmique, toute la création, jusqu'aux quatre vivants hein, qui au début tombent, parce que des quatre vivants, même l'aspect dans le Christ de la créature, adore, tout tombe devant l'agneau. Ce que dit le Saint-Père, le Rédempteur de l'homme, Jésus-Christ, est le centre du cosmos. Et il est le centre du cosmos, c'est manifesté par cette adoration de tout le cosmos face à l'agneau. Alors ça, c'était, si vous voulez, vous voyez comment on peut inaugurer un regard sur le Rédempteur. Quelle est la place du Rédempteur dans le cosmos et dans l'histoire. Il y a un second point dont il faut tout de suite parler, c'est que nous sommes dans un entre-deux. Nous sommes dans l'attente du second avènement. Alors évidemment, vous reconnaissez là tout de suite un thème du Saint-Père. L'Église est dans un nouvel avant. Première chose qu'il faut bien voir, c'est que cet acte qui est de la rédemption, cet acte du Rédempteur qui est au centre du cosmos et de l'histoire, inaugure une nouvelle période dans l'économie divine, ce qu'un hebdomadaire ou je ne sais plus mensuel appellerait le temps de l'Église. Avant la rédemption, on est dans le temps des préfigurations. Comme le dit le Concile, dans la Constitution sur la liturgie, cette œuvre de la rédemption des hommes et de la parfaite glorification de Dieu, à quoi avaient préludé les grandes œuvres divines dans le peuple de l'Ancien Testament. Si on a le temps, on essaiera de voir ça. Avant, il y a des choses qui préludent, on préfigure. On traverse la mer Rouge, on manque de tuer Isaac. Bon. Et puis à partir de la rédemption, il y a quelque chose qui naît, l'Église, qui reste, comme le dit le Saint-Père, dans la sphère de la rédemption. Vous voyez, on a envie de dire qu'il y a comme un haut plateau. À partir de la croix, de l'acte de la rédemption, naît l'Église. Vous savez bien le symbolisme qu'a lu Augustin du Christ en croix, du Christ endormi sur la croix, naît l'Église. Comme Ève est sortie de la côte d'Adam. Enfin, du côté d'Adam. Du Christ en croix, de son flanc transpercé, coule le sang et l'eau qui donnent la vie à l'Église. Symbolisme, donc, lu par saint Augustin qui a repris le Concile. Et vous voyez, ça c'est très fort. Ça veut dire que si l'Église naît de la croix, elle reste vivante tant qu'elle reste reliée au crucifié. Souvenez-vous du petit passage où saint Paul prend à partie les Galates. Il leur dit « Pauvre fou de Galates, qui vous a ensorcelé, vous qui avez eu sous les yeux le tableau de Christ crucifié ?» Pourquoi il leur dit ça? Il leur dit parce qu'ils sont complètement à côté de la plaque, et donc il les reprend en leur disant « Mais comment ça se fait que vous déviez, que vous soyez en train de dépérir, alors que je vous ai présenté la sagesse de la croix, que je vous ai mis dans ce lien de foi et d'amour avec le crucifié ?» Et la manière dont il le reprend, c'est en leur disant, regardez le Christ crucifié, relisez le début de la première épître aux Corinthiens. Où là, ce n'est pas les Galates que saint Paul reprend, c'est les Corinthiens. Et il leur dit quoi? Vous n'avez rien compris au mystère de la croix. Revenez à la sagesse de la croix. Donc ça, c'est capital pour l'Église. L'Église dévie, dépérit, meurt, dès qu'elle n'oublie sa source, dès qu'elle ne vit plus en acte de sa source, le mystère de la croix. C'est très fort, hein, ça, pour aujourd'hui. Hein? C'est la grande tentation pour l'Église, le messianisme temporel, c'est-à-dire de refuser que sa sagesse, c'est la sagesse de l'échec total apparent. Mais quand même, il y a une sacrée apparence. Alors, vous voyez, nous sommes dans ce temps de l'Église, entre deux avènements. Le premier avènement lié à l'incarnation et le second avènement qui est la venue du Christ dans la gloire, ce qu'on a appelé traditionnellement la parousie. Donc, nous sommes là, et ça c'est très important à comprendre du point de vue de la rédemption, dans une espèce de paradoxe. Tout a été accompli, comme le dit Jésus à la croix. Tout est achevé, tout est accompli. Et en même temps, on est dans l'attente. Comme le dit saint Pierre, nous sommes dans l'attente des nouveaux cieux. Nous attendons de nouveaux cieux et une terre nouvelle. Deuxième épître de saint Pierre. Puis vous vous souvenez alors là de ce que montre toute la fin de l'Apocalypse. Des cieux nouveaux, une terre nouvelle qui doit, etc., qui descend de près de Dieu. La Jérusalem céleste. Alors ça, le Saint-Père le montre bien. En parlant, il dit, le lien entre le monde et Dieu, grâce au Christ, est renoué. Cet acte de la rédemption, il suscite l'Église, c'est-à-dire la communauté de ceux qui sont à nouveau des hommes reliés à nouveau à Dieu. Tel que Dieu veut qu'il leur soit relié, qu'il lui soit relié. Mais ceci, ce lien renoué, va de pair avec ce que je disais tout à l'heure. Toute la création reste soumise à la caducité. Hein, la vision de saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Donc, vous voyez, on comprend pourquoi cette création gémit. Elle est sauvée, mais elle n'en a touché que les arts. C'est les prémices. Il y a quelque chose qui doit venir. Alors, vous voyez, ça, c'est très éclairant, parce que là, on est au niveau global. Mais au niveau de la vie individuelle chrétienne, on retrouve bien la difficulté de la vie chrétienne. Nous sommes sauvés et nous sommes en même temps, ce que le théologien appelle, soumis aux différentes concupiscences qui sont des conséquences du péché, péché originel et nos péchés personnels, que Dieu n'efface pas, même chez les baptisés. Donc, je suis par la grâce reliée à Dieu. Je vis en communion avec Dieu et en même temps, j'ai des espèces de propensions terribles à dévier, à sortir de ce que réclame cette intimité avec Dieu. Donc, ça veut dire que notre vie chrétienne se vit dans la lutte et la souffrance, de la même manière que la création qui gémit. Et cela veut dire qu'il y a une place pour l'espérance. Notre foi nous dit que cette rédemption n'a pas pris toute son ampleur. Elle n'est pas perfectionnée quant à ce qu'elle a réalisé pour nous. Nous avons encore quelque chose à recevoir. Et pourtant, vous voyez comme c'est à la limite choquant ce que je viens de dire, parce que tout a été réalisé dans le Christ. Et il faut bien sentir le paradoxe. Et c'est bien pour ça que il y a la certitude de la foi. C'est bien pour moi quelque chose que je dois recevoir. Mais je ne l'ai pas encore parfaitement. Hein. Il suffit de vivre chrétiennement pour le savoir. Et donc, il y a toute la place de l'espérance. Grâce à Dieu, je parviendrai à vivre pleinement de cette rédemption en ayant éliminé tout ce qui est encore du vieil homme marqué par le péché. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
session de théologie du Père Martin le 4 novembre 1994 à Rimont, le Christ Rédempteur, deuxième couvent.
Alors vous voyez, il y a quelque chose de très beau, mais auquel il faut bien faire attention. Le Christ, comment le Christ correspond pleinement à la paternité, à l'amour de Dieu et à la paternité du Créateur? C'est la dimension divine. Donc c'est en tant que l'homme qui est le Christ est assumé par cette personne divine de la deuxième, la deuxième personne de la Très Sainte Trinité. Donc vous voyez, on a l'impression que le Saint-Père joue. Il dit le Christ correspond pleinement à l'amour de Dieu, à la paternité du Père, du Créateur. Hein? Distingue bien. Alors justement, distinguons. Il y a deux paternités. La paternité du Créateur en tant que source d'être et de vie, par rapport à tout le créé, à tout le monde créé, par rapport à ce que nous sommes, nous. Cette paternité s'enracine dans une autre paternité qui, là, est éternelle. C'est la paternité du Père comme première personne dans le mystère de la Très Sainte Trinité par rapport au Fils qui n'est autre que le Verbe, c'est-à-dire par rapport à la deuxième personne de la Très Sainte Trinité. Le Christ correspond pleinement à l'amour du Père parce qu'il est justement le Fils incarné. Vous voyez, ça c'est très beau. Comment Dieu va réaliser son va parvenir à ce qu'un homme, alors on retrouve un peu Don Scott, hein, mais vous voyez de manière beaucoup plus juste, comment est-ce que Dieu va parvenir à ce qu'un homme corresponde pleinement à son amour? Par le Fils qui s'incarne. Donc c'est un fruit de l'union hypostatique. Cette union hypostatique a comme fruit dans le cœur humain du Christ une plénitude de grâce. Pourquoi? Parce que le Christ est le plus proche par l'union hypostatique de la source de la grâce, le plus proche de Dieu. Donc c'est dans son cœur que culmine cette grâce, cette communion à la vie de Dieu qui est une vie d'amour. Et donc culmine dans son cœur la charité. Dans le Christ, il y a une plénitude de charité. Charité qui regarde Dieu, qui le fait aimer Dieu avant tout. Donc voyez bien que c'est comme Fils éternel du Père que le Verbe incarné correspond pleinement à l'amour de Dieu. Il y a un parallèle, il y a une espèce d'union là que fait le Saint-Père qui est très belle. Vous voyez, réfléchissez, quand le Christ dit Père, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est la créature qui regarde le Créateur? Est-ce que c'est le Fils éternel qui regarde son Père, au sens de cette source qui lui a donné éternellement d'être? Eh bien, c'est les deux, c'est indissociable. Il y a une grande querelle, parce que quand saint Thomas d'Aquin dit, commente le Notre Père, le Paternoster, il dit, c'est la Très Sainte Trinité. Quand Jésus dit notre Père, les exégètes disent non, ça c'est pas possible. Étant donné tout le contexte, c'est sûrement la première personne, celui à qui il dit Abba Père. Est-ce que c'est pas les deux? Voyez? Le Christ, quand il crie Abba Père, c'est certain que c'est, et là saint Thomas d'Aquin a bien sûr raison, que c'est la créature face à son Créateur. Dans le texte de saint Marc, au moment de l'agonie, quand Jésus crie Abba Père, il continue en disant non pas ta volonté, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc, non pas ma volonté comme être humain créé, mais la tienne, ta volonté divine. Donc, il dit ça comme créature, et donc quand il dit Abba Père, c'est bien comme créature. Mais en même temps, celui qui dit ça, c'est le Verbe, parce que tout est assumé dans le Christ par le je du Verbe. C'est le Verbe qui est la personne qui assume l'humanité. Et c'est le mystère de Jésus. Quand il regarde, c'est dans l'unité, cette créature qui est assumée par Dieu et qui est assumée par la seconde personne qui est Fils par rapport au Père. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est le fruit du fait que Jésus est le Fils éternel, qui n'est pas simplement un homme, mais qu'il est aussi le Fils éternel. Donc le fruit de cela, c'est cette correspondance plénière à l'amour de Dieu. Quel va être l'intérêt du point de vue de la rédemption? C'est que vous allez avoir quelque chose qui surcompense ou contrebalance et au-delà tous les rejets que l'homme pécheur a imposés à Dieu. Donc dans le texte du Saint-Père, dans Redemptor Hominis, le Christ a également correspondu pleinement à cette paternité de Dieu et à cet amour, alors que l'homme a rejeté cet amour, en rompant la première alliance au paradis terrestre, et toutes celles que Dieu par la suite a souvent offertes aux hommes. Donc vous voyez que vous avez, c'est très simple, hein, comment le Christ nous réconcilie par une correspondance à l'amour du Père qui contrebalance tout ce que l'homme, depuis Adam, avec sa compagne Ève qui transgresse l'interdit divin, jusqu'à la croix, qui est la grande apostasie, puisque c'est le lieu, comme le rappelle Saint Jean, où les grands prêtres disent « Nous n'avons comme roi que César ». Donc toute royauté de Dieu est rejetée par les grands prêtres, alors que Dieu est roi en Israël. Et entre les deux, vous avez tous les rejets, toutes les infidélités d'Israël, qui sont dénoncées par les prophètes. Tous les prophètes ont fait des longs laïus. Prenez Isaïe au chapitre 1, Jérémie au chapitre 2, Ézéchiel, etc., sur ces infidélités. Donc, vous voyez que là, le Saint-Père nous montre, d'un point de vue d'économie divine, que la place de la rédemption se saisit par rapport à un mystère de péché. Donc, tout ce qui attaque le sens du péché attaque le sens de la rédemption. Et donc, ça, c'est quelque chose, évidemment, d'actuel. L'être humain, aujourd'hui, l'homme moderne, n'a pas le sens du péché, refuse le péché. Donc, évidemment, c'est un peu délicat pour lui de comprendre la place de la rédemption. Donc, c'est là où vous avez ce qu'on appelle la satisfaction. Le terme théologique, qui est utilisé par saint Thomas avec prédilection, qui veut dire que, vous voyez ce qu'explique le Saint-Père là, le Christ, par sa vie et par son offrande, l'offrande de sa vie, satisfait par rapport à toutes les blessures que constituent les péchés. Dieu, dans sa vulnérabilité infinie, parce qu'il est un Père très aimant, est comme blessé par le péché. Celui qui compense et au-delà, c'est le Christ. Donc c'est ce terme de satisfaction qui est très, très rejeté aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les théologiens aujourd'hui refusent de voir tout, une espèce, vous voyez, ce qui pour eux est un échange, donc une espèce de marché, en plus passant par la souffrance d'un innocent. Vous voyez, ça c'est une vision qui est insupportable pour certaines mentalités modernes. Le problème, c'est que concrètement, il y a quand même le péché. Donc s'il n'y a pas quelque chose qui compense, on est quand même bien embêté. Donc ce thème de la satisfaction est quand même difficile à gommer. Alors, comment cela se fait-il, comme dit l'autre? Je continue à lire. La rédemption du monde, ce mystère redoutable de l'amour. Vous voyez, c'est quand même intéressant. Au-delà d'un aspect de justice impliqué par la satisfaction, l'homme a péché, le Christ rattrape. Vous voyez, une espèce d'échange, on va le voir ça. Mais ce n'est pas la justice, évidemment, qui me dit le dernier mot. Avant et au-delà de la justice, il y a un mystère redoutable d'amour. C'est-à-dire que Dieu porte tout ça, se donne, parce que c'est Dieu qui est amour. Souvenez-vous ce qu'on vient de dire sur la manière dont le Christ révèle à la croix. Au-delà de la satisfaction, il y a le mystère de l'amour de Dieu qui est à nouveau offert aux hommes et qui prend le cœur des hommes qui s'unissent au Christ à la croix. Pensez au mystère de Marie. Donc la petite incise du Saint-Père est évidemment capitale. La rédemption du monde, ce mystère redoutable de l'amour, dans lequel la création est renouvelée, donc il y a création et recréation, et dans ses racines les plus profondes, c'est-à-dire dans le Christ, la plénitude de la justice dans un cœur humain. Alors voilà la justice. Dans le cœur du Fils premier-né. Vous voyez comment il joue. Ce cœur humain est le cœur du Fils. Il y a plénitude de justice parce que justement c'est le cœur du Fils. Parce que c'est le... tout ceci est vécu dans une plénitude de grâce qui est caractéristique du Fils bien-aimé. Relisez le prologue. Le verset 14 du prologue. Après avoir dit « Le Verbe est devenu chair », Jean parle du Fils unique plein de grâce et de vérité. La plénitude de la justice dans un cœur humain, dans le cœur du Fils premier-né, afin qu'elle puisse devenir la justice des cœurs de beaucoup d'hommes. Vous voyez, cette justice dans le cœur du Christ qui agonise à la croix, de là, elle dérive dans les cœurs humains. Alors, le Saint-Père dit beaucoup d'hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui, dans ce Fils premier-né, ont été prédestinés de toute éternité à devenir fils de Dieu et appelés à la grâce, appelés à l'amour. Vous voyez? Alors, beaucoup d'hommes. Alors, c'est tous ou non? Il y en a qui sont laissés sur le côté. Scandaleux. Mais Jean y répond. Hein. Verset 12 du prologue. À tous ceux qui l'ont reçu. Donc, ce mystère, vous voyez, ou du Christ en croix, de son cœur, du cœur du Christ. Ce mystère d'une justice, c'est-à-dire qu'il est juste devant Dieu. Il correspond à ce que Dieu réclame de l'homme. Vous voyez, c'est juste. Cette justice qui de là dérive dans le cœur de des hommes, de beaucoup d'hommes, elle est suspendue à l'acceptation par ces hommes. Il faut qu'ils la reçoivent. Évidemment, celle qui a le plus reçu, qui l'a bu, on a envie de dire, comme une terre altérée, asséchée, c'est Marie. Comme le dit saint Paul dans la deuxième épître à Timothée, Dieu veut le salut de tous les hommes. Mais ces hommes doivent se tourner librement, volontairement, ils doivent le recevoir. Donc voilà, le problème il est là. Hein. Cette dérivation de la justice qui est dans le cœur du Christ, dans les cœurs de beaucoup d'hommes, se fait par l'effusion de l'Esprit-Saint. Voilà la troisième personne qui intervient. Donc, on voit bien tout de suite comment la rédemption est liée au mystère trinitaire. Dans la rédemption, c'est le Père qui renoue avec l'humanité, c'est le Fils qui travaille, et c'est l'Esprit-Saint qui est répandu dans nos cœurs. L'Esprit-Saint qui est donné, plus exactement. Hein? Et ça, c'est bien lié à la croix. Souvenez-vous de la petite parole de saint Jean au chapitre 7. L'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, parce que je le reçois par l'adhésion dans la foi, c'est la foi qui est capitale comme ouverture au mystère du salut. Je crois. Ça y est, je crois que le Christ est mon sauveur et je le cherche de toute mon âme. Eh bien, saint Jean montre que ceux qui reçoivent le Rédempteur en croyant reçoivent l'Esprit-Saint. Mais ceci est lié à une chose, il n'y avait pas encore d'Esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc cette effusion de l'Esprit-Saint, elle est liée à la glorification du Christ et donc au mystère de la croix. L'heure du Christ dans saint Jean. Hein? Juste avant la croix, Jésus prie au chapitre 17 de saint Jean, « Père, glorifie-moi. » C'est analogue à la révélation du mystère de Dieu qui se fait à la croix. Le moment où le Christ entre dans la gloire, c'est à travers sa souffrance et sa passion. la croix est glorieuse. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où le Christ pénètre totalement dans le mystère divin, pour nous y faire pénétrer à sa suite. Alors, un peu plus loin dans l'encyclique, le pape reprend cet échange entre une action du Christ et le don de l'Esprit-Saint. Et il montre qu'il y a trois dons. Et ça, c'est très beau. C'est au numéro 20 de l'encyclique. Il y a trois dons. Le premier, c'est le don total du Fils. Tout à l'heure, je parlais d'une justice. Quelle est la justice pour la créature face à son créateur ? La créature, c'est-à-dire nous, hein. Chacun de nous, nous devons tout à Dieu. Donc quand nous nous tournons vers Dieu et quand nous voulons donner quelque chose à Dieu, la seule chose qui est adéquate, c'est de nous donner tout entier. Donc c'est la dimension religieuse, c'est-à-dire qui correspond à l'attitude de la créature par rapport au créateur. Eh bien, cette dimension religieuse en l'homme exige le don total de soi dans le sacrifice. Mais un sacrifice total, c'est-à-dire, ça s'appelle, c'est un nom spécial, ça, holocauste. Tout est brûlé. Hein, l'holocauste dans l'Ancien Testament. Plus rien ne reste, on ne peut plus rattraper, tout est donné, c'est fichu. Ben, c'est ça dont je dois vivre pour être en justice par rapport à mon Créateur. Comprenez bien que l'homme marqué par le péché, il a un peu de peine à en vivre, ça. Hein, c'est l'adoration en esprit, en vérité. Ben, je plonge dans une piscine en ayant l'impression qu'elle est vide. Holocauste. Ça, c'est quelque chose que le Christ va vivre à la croix. Le Saint-Père parle du don total du Fils. Alors, qu'est-ce que fait le Père ? Il accepte ce sacrifice. Il accepte, en échangeant ce don total du Fils qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort, à la parole de l'Épître aux Philippiens, avec, dit le Saint-Père, son propre don paternel. Qu'est-ce que c'est le don du Père ? C'est le don de la vie nouvelle et immortelle dans la résurrection. Donc, vous voyez, quelque chose que Dieu donne au Verbe incarné dans la croix, c'est le don de la vie nouvelle. Et immortel dans la résurrection. Bon, c'est donc la résurrection. Il ressuscite Jésus. Et désormais, le Christ n'est plus de ce monde. Son humanité est totalement glorifiée. Il n'est plus de notre monde. Donc, c'est ce que je voulais dire en parlant de cette entrée tout entière du Christ dans le mystère de Dieu, dans la gloire. Hein. Père, glorifie-moi. Le Christ devrait être dans cette gloire, mais justement parce qu'il doit vivre la croix, il cache sa gloire, sauf à un moment, la transfiguration. Mais à partir de la croix, il rentre dans cette gloire. Et donc nous ne pouvons plus avoir l'expérience du Christ. Si on a une apparition, elle est inadéquate par rapport au mystère de la gloire. Hein, ça purifie par rapport à nos désirs d'avoir des apparitions. Ce don de la vie nouvelle qui est faite au ressuscité, est un signe, dit le Saint-Père, un signe efficace, donc comme un sacrement, un signe efficace du don nouveau fait à l'humanité, qui est le don de l'Esprit-Saint. Donc voilà le troisième don. Dont la résurrection, voyez comme c'est intéressant, est le signe efficace. Vous voyez, sur quoi je m'appuie pour savoir que l'Esprit-Saint m'est donné ? Avant tout, sur le fait de la résurrection, qui est central pour ma foi. Hein. Du point de vue de ma foi, le petit truc qui restera toujours lumineux, même dans les pires ténèbres, c'est le Christ est ressuscité. Alors le jour où vous n'y croyez plus, ça, vous avez plongé. Il faut ça qu'ils ont eu lieu de faire comme il paraît. Il y a un prêtre qui un jour, vers les années 68-69, a commencé son prêche dominical en disant « Eh bien, j'y ai cru jusqu'à maintenant, mais maintenant, mes chers frères, je crois que le Christ n'est pas ressuscité. » Alors, évidemment, du point de vue de sa responsabilité pastorale, je ne sais pas comment il se débrouillera. Signe efficace. C'est dans la glorification du Christ, hein, comme le dit saint Jean, que nous est donné l'Esprit-Saint. Cette chair labourée par la souffrance, mais qui est une souffrance portée par l'amour, est une chair glorieuse, même si ça n'apparaît pas, vous voyez, comme une espèce de grand phare lumineux au moment de la croix. Mais elle est glorieuse. Pourquoi ? Parce qu'elle est portée par un amour qui prend tout. Et cette chair glorieuse nous vaut à nous de recevoir le don de l'Esprit-Saint. Signe efficace. Nous qui sommes le corps mystique, nous recevons le don de l'Esprit-Saint qui nous divinise, qui nous fait à notre tour crier « Abba, Père ». Eh bien, cela, c'est dû à ce qui s'est passé en Palestine vers l'an 30, sur une croix à l'écart de Jérusalem. Bon. Alors, je prends la phrase qui est au début de la troisième colonne. Cette révélation du Père qu'opère le Christ à la croix et cette effusion de l'Esprit Saint qui marque d'un sceau indélébile le mystère de la rédemption font comprendre le sens de la croix et de la mort du Christ. Donc, vous voyez que que dit le Saint-Père. C'est que la croix, on saisit son sens à partir de deux dimensions de ce mystère, révélation et réconciliation par l'effusion de l'Esprit-Saint. Effusion de l'Esprit-Saint qui, encore une fois, nous fait fils dans le Fils. Nous prenons la prière de Jésus et nous disons « Abba, Père ». Et donc c'est là où nous rentrons à notre tour dans cette correspondance plénière du Christ à la paternité de Dieu. Et donc on est réconciliés dans le sens où ce que Dieu veut, que nous lui soyons unis, est vécu d'une manière ultime pour le chrétien dans le Christ. Par quoi ? Par le don de l'Esprit-Saint. Hein, tous les textes de saint Paul. Vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions « Abba, Père ». Chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Alors, vous voyez, on peut faire une espèce de petit schéma, sans être trop schématique, mais tout est enraciné dans la création. Premier don que Dieu fait à l'homme. Et Jésus va correspondre dans son cœur d'homme à la paternité du Créateur, dit le Saint-Père. Cette création, elle culmine dans l'incarnation. C'est-à-dire dans ce qui se passe dans le ventre maternel de Marie. Là, la création atteint son sommet. Dans la constitution, par l'Esprit-Saint, avec la coopération de Marie, du corps humain de Jésus. Cette incarnation, ce qu'on a vu au début, elle est ordonnée à la rédemption, et donc à l'acte essentiel de la rédemption, qu'est la croix. Cette croix, cet acte de la rédemption se comprend avant tout selon ces deux dimensions de révélation et de réconciliation. Et c'est inséparable. Hein. Il n'y a pas un premier moment dans la croix où Dieu révèle et ensuite où Dieu réconcilie. C'est en même temps. Et donc c'est pour ça que cette révélation, c'est celle de l'amour qui pardonne, comme dit le Saint-Père. Je touche l'absolu de l'amour divin dans cette miséricorde que Dieu fait à l'humanité pécheresse. Donc, vous voyez, parce que cette révélation est en même temps une réconciliation, c'est la révélation de la miséricorde, donc de cette qualité ultime de l'amour de Dieu pour nous, hein, de notre côté, qui est la miséricorde. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que quel est le moyen pour moi, concrètement, dans ma vie chrétienne, de saisir l'absolu de l'amour divin, c'est concrètement la miséricorde. Ça va très loin, ça. Hein. Ça vous réconcilie avec le sacrement de réconciliation. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à rentrer dans une contemplation du mystère de Dieu? Est-ce que ce n'est pas un peu lié à notre manque de fréquentation du sacrement de pénitence? Qui est le sacrement où je rencontre de manière tout à fait spéciale le Christ dans sa miséricorde. Alors, dernière chose que le Saint-Père regarde, c'est l'homme racheté. Ça, c'est capital. C'est là où il veut aboutir. La troisième partie de l'encyclique, elle est intitulée « L'homme racheté et sa situation dans le monde contemporain ». Vous voyez, puisqu'il s'agit de rappeler à l'être humain son lien avec le Rédempteur. Son lien avec le Rédempteur, c'est qu'il est racheté. Je suis dans une situation de racheté. C'est ça que dit le Saint-Père. Même si vous n'en avez pas conscience, vous êtes racheté. Alors, le Saint-Père parle là de la dimension humaine du mystère de la rédemption. Et là, le numéro 9, la photocopie que vous avez, c'est la dimension divine. Et ensuite, il ajoute, numéro 10, dimension humaine. Qu'est-ce que veut dire Jean-Paul II? Il dit que cet amour qui se révèle à la croix révèle pleinement l'homme à lui-même. Comment? En le faisant participer à l'amour divin. C'est-à-dire par l'effusion de l'Esprit Saint et par l'union qui est à nouveau rendue possible entre l'homme et le mystère divin, qui est un mystère d'amour. Par cette participation de l'être humain au mystère divin, vous voyez ce que dit le Saint-Père, l'être humain est pleinement révélé à lui-même. Conséquence, si je ne rentre pas dans ce mystère de l'incarnation rédemptrice, si, comme le dit le Saint-Père, je ne me l'approprie pas, ce mystère de l'incarnation et de la rédemption, il doit devenir le mien. Maintenant que je ne le fais pas, je suis comme opaque à moi-même, dans une certaine mesure, évidemment, qu'il faut préciser. L'homme doit s'approprier toute la réalité de l'incarnation et de la rédemption pour se retrouver soi-même. Numéro 10 de l'encyclique. Et en se retrouvant soi-même par cette appropriation, par là, il peut se comprendre lui-même jusqu'au fond. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il faut bien faire attention, hein, parce qu'il peut y avoir un petit problème, hein, si on comprend mal. Il faut bien comprendre que le Saint-Père dit se comprendre pleinement, se retrouver pleinement, se comprendre jusqu'au fond. Donc, il y a deux choses à distinguer. Qui sont pour nous, encore une fois, toute une. Il y a une première chose, c'est que, en conséquence du péché, qui, comme on l'a vu, met la nature humaine dans un état blessé, je ne réalise pas pleinement dans ma vie toutes les exigences humaines de ma nature humaine. Si vous voulez, à cause du péché, dans ce que je réalise, et ça, Luther l'a bien compris, à cause du péché, mon humanité est comme tronquée, parce qu'elle est blessée. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi? Je n'arrive pas à l'adoration en esprit et vérité, qui est requise parce que je suis une petite créature qui dépend totalement du Créateur. Je ne parviens pas à vivre parfaitement même de l'amitié. Oui, j'ai des amis, il y a des gens que j'aime bien, mais l'exigence en particulier de fidélité totale jusqu'à la mort, il suffit de regarder autour de nous, elle est assez mal vécue. J'ai, par mon intelligence, la capacité de remonter jusqu'à Dieu. Mon intelligence est faite pour la contemplation. Ben, bien peu en vivent. Donc, il va y avoir un aspect de restauration de cette humanité par une grâce qui restaure, qui guérit, ce qu'on appelle en langage théologique latin, la grâce sanans, la grâce qui guérit. Et plus cette grâce, donc ce don de Dieu qui est fait au plus profond de mon âme, prend mon âme, plus je peux retrouver un exercice, je dirais, tout à fait normal, au niveau même de mon humanité. C'est-à-dire que je vais être capable de fidélité, c'est la grâce du sacrement de mariage. Je vais être capable d'adorer, je deviens cet adorateur en esprit et vérité que réclame le Père. Et je peux vivre de la contemplation au niveau humain, un peu moins gêné par la paresse, par le désir de faire autre chose, etc. Mais là, vous voyez, je suis par rapport à des finalités humaines. C'est pour ça que je vous parle de l'adoration, que je vous parle de la contemplation, que je vous parle de l'amitié. La grâce s'annonce, me permet de vivre pleinement, alors hein, pas miraculeusement du premier coup, mais progressivement, la grâce soigne cette nature blessée. Et elle le fait de manière très, je dirais, charismatique et nette dans une conversion. Conversion, vous commencez à pouvoir faire des choses que vous n'avez jamais réussi à faire. Vous levez à 6h du matin, aller à la messe tous les jours. Jusque-là, c'était insurmontable. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a eu quand même une petite mission de l'Esprit Saint, une petite croissance de la grâce et de la charité, qui font que vous arrivez à faire des choses qui, même dans l'ordre, alors aller à la messe, ce n'est pas l'ordre naturel, mais se lever à 6h du matin pour pouvoir travailler, ça peut être dans l'ordre naturel, une négligence dans l'ordre naturel. Mais ça, c'est un premier niveau, évidemment, qui est... Ou, si vous voulez, là, le don de la grâce ne me révèle pas tout, là. Parce que ces finalités humaines, le philosophe en parle, le philosophe les découvre. Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, il en parle de l'adoration, enfin de l'adoration, en tout cas, il parle de la contemplation, il parle de l'amitié. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que j'ai du mal à en vivre pleinement. Donc le philosophe, là, est face au problème de la faute morale. Du fait que, c'est-à-dire que l'être humain a des finalités qui le caractérisent comme être humain, comme être spirituel, dont il ne parvient pas à vivre. Et ça, le philosophe, il ne comprend pas. Mais il est capable de voir que l'être humain n'atteint pas, ne va pas jusqu'au bout de ce que réclame son humanité. Donc ce que je veux dire là, c'est que l'aspect du don fait dans la rédemption ne me révèle pas ce que sont les finalités humaines. En revanche, il y a un autre niveau, évidemment, qui est non pas la grâce sanance, mais la grâce qu'on appelle la grâce sanctifiante, c'est la même grâce, hein, selon deux aspects différents. Cette grâce sanctifiante, ça veut dire Dieu seul est saint, c'est la grâce qui divinise. La grâce qui nous rend, comme le dit saint Thomas, à la suite des Pères de l'Église, déiforme, qui nous moule sur Dieu. Alors là, il y a une grande révélation. Elle nous révèle que nous sommes éternellement faits pour être divinisés. Elle nous révèle qu'en nous, nous avons cette capacité à être divinisés. Si vous voulez, elle nous montre que notre esprit, notre intelligence, notre cœur profond sont ultimement destinés à être comblés par Dieu lui-même qui se donne à nous et qui nous unit à lui. Donc, pour ceux qui connaissent Saint Jean de la Croix, c'est les fameuses cavernes de Saint Jean de la Croix. Nous avons en nous des cavernes, ce que Saint Jean la Croix appelle les cavernes, l'intelligence, la volonté, la mémoire, c'est-à-dire des espèces de creux béants qui ne peuvent être comblés que par Dieu. Ce qui veut dire, la parole de saint Augustin, tu nous as fait pour toi, et jusqu'à ce que l'homme ait trouvé Dieu, il est en attente, il n'est pas dans le repos. Vous voyez, ça, c'est très fort. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas renoué avec Dieu, grâce au Christ dans la rédemption, il y a quelque chose qui restera insatisfait en vous. Ça, c'est la chose qu'on rappelle tout de suite à des fiancés, en leur disant, mais celui qui comblera votre cœur, ce n'est pas votre fiancé, ce n'est pas votre époux ou votre épouse, c'est Dieu. Il vaut mieux que vous soyez lucides. Alors, s'ils sont croyants, ça va. S'ils ne sont pas croyants, ils se disent, qu'est-ce que c'est que ce curé? Alors, cette capacité, hein, cette capacité à être divinisé, c'est ce que saint Thomas reprend à saint Augustin, l'expression « capax dei ». Par le fait même que je suis homme, créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire que j'ai un esprit ouvert à l'infini, je suis capax dei. Alors là, oui, le don que Dieu me fait, me refait par la rédemption, là, oui, il me fait vraiment découvrir quelque chose. Il me fait découvrir cette capacité. Et donc c'est ça ce que veut dire surtout le Saint-Père. C'est que par le don de la vie nouvelle dans le Christ, cette vie nouvelle qui vient de la croix, je découvre toute ma dignité, qui n'est pas simplement une dignité au point de vue humain, qui va très loin, hein. Et aujourd'hui on en vit très mal, parce qu'on est toujours marqué par le péché. Mais c'est une dignité au niveau surnaturel. Je suis destiné à être Dieu, Fils, dans le Fils. À être, comme le dit l'épître de Saint-Pierre, le deuxième épître de Saint-Pierre, à participer à la nature divine. Alors là, c'est, le pape dit, ben voilà, c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. Et c'est là où l'Église a quelque chose d'unique à dire au monde. Elle doit rappeler à tous cette dignité. Et le Saint-Père ne fait que broder sur ce que dit le Concile, là, en disant, quand le Concile montre bien, justement, l'ouverture pour tous de ce qui a été réalisé dans le Christ. Parce que ce Capax Dei, là, c'est pas lié à quelque chose de particulier, c'est tout homme, en tant qu'homme.